ce sera après la revue de presse notamment. Ça c'est votre affaire, la revue de presse. Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec une ordonnance.
Oui, une vraie ordonnance d'un vrai médecin que je découvre dans le Figaro ce matin. Il n'y est pas question de médicaments, mais de comportement. Écoutez, c'est écrit noir sur blanc. N'allumez pas la télévision, rangez les télécommandes, mettez votre téléphone sur silencieux, fermez l'ordinateur. Vous pourrez rallumer les écrans quand votre enfant sera couché. Cette ordonnance a été délivrée à une famille totalement perdue, venue chercher de l'aide dans une consultation pédiatrique d'un genre nouveau. Elle a lieu tous les lundis matins à l'hôpital Jean Verdier à Bondy en Seine-Saint-Denis, nous dit le Figaro, consacré à la surexposition aux écrans pour des mômes entre 3 et 6 ans. Retard de langage, trouble de l'attention, violence parfois, les symptômes sont multiples, tout comme chez les adolescents intoxiqués. En tête à tête avec leur machine, depuis plus d'un an de crise sanitaire, constate le journal, entre les études par visio, les jeux en réseau, les groupes de discussion et les séries à profusion. Nous avons créé des moyens de travail et de communication pour lesquels nous ne sommes pas physiologiquement faits, estime un chercheur. Avec l'école à la maison et le télétravail, le temps d'écran a augmenté de manière compréhensible, mais il aurait fallu en parallèle diminuer le temps d'écran lié aux loisirs. Or, les deux se sont plutôt additionnés, dit-il. Perte des rythmes familiaux, du côté des enfants comme des adultes, on l'aura compris. Urgence à retrouver des activités partagées pour enfin débrancher. Allez, se lever du canapé et se tirer des algorithmes des plateformes de streaming. Parce que le monde d'après nous attend. Les doigts dans la reprise, titre Libération qui nous parle de culture. Les salles, les musées, les jauges limitées, les œuvres qui se bousculent au portillon. Des craintes, des espoirs et une foule de questions. Y aura-t-il seulement assez de spectateurs ? Oui, comme un compte à rebours qui a largement commencé dans vos journaux avant mercredi prochain. J-4 prévient la Provence avec des commerçants qui préparent la boutique. Essentiel ou pas, on ouvre. Et on voyage aussi avec un pass sanitaire. Les Français disent oui, affirme le Parisien aujourd'hui en France. Sondage à l'appui, 68% y seraient favorables à ce pass sanitaire parce que ce serait plus simple. Et parce que nous suivons les consignes, affirme aussi le journal, qui rend hommage à ce peuple gaulois devenu quasi germanique. Oui, à force de discipline et d'une vigilance collective impressionnante, s'enthousiasme Rémi Dessart. Prudent également face à la pandémie et méfiant lorsqu'aux États-Unis, Joe Biden annonce aux Américains vaccinés qu'ils peuvent retirer le masque. Déclaration pour le moins intempestive et prématurée, dit-il. D'ailleurs, ce matin, le Washington Post s'interroge lui aussi sur son site. Faute de réel contrôle dans la rue, combien de gens non vaccinés vont en profiter pour tomber le masque, eux aussi. Une certaine confusion selon les États.
De l'importance de réussir la sortie.
Comme vous dites, et comme si nous étions sur une ligne de crête, écrit Philippe Boissonnat dans les colonnes de Ouest-France. Entre le besoin profond d'un retour à une vie déconfinée, et cette incertitude, cette fatigue, cette anxiété qui nous colle aux doigts comme le sparadrap du capitaine Haddock. Renouer avec ses petits riens, boire un verre en terrasse, choisir une paire de chaussures, retrouver des amis au cinéma. Oui, notre pays doit retrouver un minimum de confiance en lui-même, mais ce n'est pas gagné. Et l'éditorialiste de mettre en garde contre ces pompiers pyromanes, toujours prêts à instrumentaliser les détresses et les colères. Ne pas expulser trop brutalement les frustrations accumulées, dit-il. Moins de matamores qui réclament en trépignant la restauration de l'autorité de l'État et plus de médiateurs qui permettent à la vie sociale de reprendre son cours, sinon normal, du moins apaisé. Apaisé, comme le sourire de Salila Grévin, que l'on devine sous le masque et dans les colonnes de La Voix du Nord. Salila est responsable d'un centre de vaccination à Douai, où l'on pique à tour de bras, y compris en ce pont férié. Avant, je disais non à tout le monde. Désormais, je dis oui à tous ceux qui se présentent et j'en pleurerai presque, dit-elle.
Ouais, l'apaisement, contrairement à ce qui se passe au Proche-Orient.
Le Proche-Orient, très très présent encore ce matin à la une de vos journaux. Israël-Palestine, le chaos, titre le Télégramme. L'escalade pour Sud-Ouest, l'embrasement pour l'Est républicain. La Voix du Nord redoute une guerre civile. Une crise qui se manifeste aussi en France, constate le courrier Picard en première page. L'interdiction d'une manifestation de soutien aux Palestiniens à Paris attise le débat. La crainte de l'importation du conflit, écrit le Figaro. La police se prépare à un samedi à risque. Je termine avec toute autre chose qui vous fera du bien, je l'espère, dans cette actualité tourmentée. Le très très beau nouveau numéro de la revue Sphère. Il est consacré au cheval et à ses cavaliers. Cette quête d'osmose toujours recommencée. Les photos sont absolument magnifiques et je retiens cet entretien croisé entre Bartabas et Alex Lutz, deux artistes. Je me demande pourquoi le cheval a toujours passionné les humains, se demande Bartabas. C'est vrai, il n'est pas souple comme un félin, il ne vole pas, il ne nage pas. Je le compare à l'être humain. On n'a pas beaucoup de qualités, mais parfois on peut atteindre la grâce par quelque chose d'incompréhensible, ce charme étrange, comme un danseur qui deviendrait soudain gracieux. Bref, 100 fois sur le métier.
Alex Luce qui entamait son dernier spectacle au théâtre, sur scène, à cheval, il rentrait sur son beau cheval blanc. Merci Jean-Philippe Ballas et à demain.